RCF. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'effervescence du siècle numérique où chaque innovation semble dépasser l'audace de la précédente, se distingue un homme, Nicolas Duhep, dont le parcours rappelle les grandes épopées balzaciennes des personnages à l'ambition dévorante et aux rêves grandioses. Faut-il le décrire, ce visionnaire du numérique, comme un Rastignac des temps modernes, mêlant à l'ambition une audace et une persévérance dignes des héros de Balzac. Nicolas, jeune, plein d'ambition, arrive à Paris et se lance dans le monde impitoyable des affaires numériques, armé de son éducation qui combine l'art de la guerre commerciale à la finesse stratégique. Il affronte les défis avec l'élégance d'un diplomate et la détermination d'un conquérant. Avant de fonder Alchimie, Nicolas Duhep a lancé et dirigé le premier site de réservation en ligne du groupe Accor, accorhotel.com, entre 1998 à 2000. Il a ensuite rejoint l'équipe de développement commercial de Lagardère Active, Broadband, pour son lancement mobile, notamment avec Plurimédia. En 2002, il est devenu le responsable internet de Selfish Europe. Bref, un beau parcours. Chaque entreprise qu'il fonde est un nouveau chapitre dans son ascension, un pas de plus vers la réalisation de ses ambitions sans limite. Mais quelles sont-elles? Le sait-il vraiment? Ce qui est certain, c'est qu'il comprend vite la place que tiennent ensemble les médias et le numérique, et il cherche par ce biais non seulement à conquérir le monde des médias, mais aussi à le réinventer. Avec Alchimie, il tisse sa toile dans l'industrie du numérique et de la vidéo en streaming, anticipant les désirs inexprimés du public avec la clairvoyance d'un mage. À travers ses entreprises, il scrute le marbre brut de notre société de consommation, révélant les contours d'un futur imprégné de technologie et d'humanité. À travers son action, il démontre que derrière chaque décision d'affaires se cache une opportunité de contribuer au bien commun, embrassant ainsi la complexité des enjeux contemporains. Bref, Nicolas navigue entre ses entreprises, ses engagements, son vélo, sa famille. Se pensant peut-être un surhomme, il vient en théoriser dans un livre « L'énergie est inépuisable ». Nous l'avions d'ailleurs reçu à l'époque. Mais un jour, tel un petit lapin de Duracell, l'énergie s'épuise et c'est l'arrêt cardiaque qui lui fera presque quitter ce monde durant 53 minutes. Aujourd'hui, Nicolas Duhep occupe la position de président non exécutif d'Alchimie. Il est également président d'Obisk Management. Il est aussi membre du conseil et siège au conseil d'administration de Croissance Plus. Il témoigne dans cette émission de l'importance de la santé du dirigeant. Bienvenue dans l'Écho des Solutions. Bonjour Nicolas Duhep.
Bonjour.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans un nouveau visage d'entrepreneur en ce week-end pascal. Eh bien, j'ai voulu faire un visage d'entrepreneur avec Nicolas Duhep. Je ne sais pas si on peut dire, Nicolas, que vous êtes mort et ressuscité. En tout cas, vous avez connu un arrêt cardiaque et vous êtes revenu à la vie. Les battements se sont faits à nouveau jour après 53 minutes d'arrêt. On va évoquer avec vous votre parcours et particulièrement ce parcours de renaissance après cet arrêt cardiaque que vous avez vécu. On vient de faire votre portrait. Pour information, ce portrait, je ne l'ai pas écrit. Chacun de mes visages d'entrepreneur commence par un portrait rédigé, alors je l'ai un petit peu modifié, mais rédigé à 98% par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Duhep, de ce portrait?
Il faudrait que j'en garde une copie, parce que quand on me demande des bios, c'est très illustré.
C'est très illustré, ça vous convient bien. Il y a des choses que peut-être vous auriez atténuées, d'autres que vous vous dites, tiens, voilà, on aurait pu... C'est pas tout à fait juste.
Non, c'est assez fidèle. Moi, je suis quelqu'un où j'ai toujours été une personne animée partout. Et en fait, certains aimeraient me qualifier d'être juste un bosseur, mais c'est pas juste bosser. J'ai jamais été un très gros bosseur, mais ce qui m'intéresse, c'est les gens qui font tout. Vous savez, celui qui fait 2 milliards, mais qui a pas de vie perso, à mes yeux, il est un peu en échec. Donc, c'est à la fois d'être un entrepreneur, d'être un sportif, d'être un mari aimant, d'être un père présent, engagé dans les sujets de la cité. Donc l'énergie est inépuisable, c'était pour tout faire.
Alors on en reparlera très certainement, de l'énergie est inépuisable. Pour tout vous dire, la semaine dernière, l'émission de la semaine dernière était consacrée à la santé du dirigeant. C'est un petit clin d'œil que j'ai voulu faire. Je me suis dit, il faut qu'on ait une cohérence dans cette grande semaine qui s'ouvre vers Pâques. On a parlé de la santé du dirigeant, on a parlé de la vulnérabilité, de la résilience en entreprise. Aujourd'hui, on va évoquer avec vous un petit peu tout ça. La santé du dirigeant, le besoin de résilience, ce sera notre fil rouge. rouge tout au long de cet échange. Et puis, à la fin de cette émission, on sera avec Stéphane Moreau, qui est votre invité des 7 minutes pour changer le monde, puisque je demande à chacun de mes invités, de nos visages d'entrepreneurs dans l'Écho des solutions, de venir avec une personne, une personnalité qui selon lui, change la donne. Il est à côté de nous. Il sera nos grandes oreilles pendant cette émission. On lui demandera peut-être d'ailleurs un petit peu en écho ce qu'il a pensé de cet échange. On est chez vous. Je vous remercie de nous accueillir, puisque c'est un petit peu ça aussi le concept de l'émission. On va dans les bureaux, dans les lieux de vie des personnes qui interviennent. On y voit des cadres, des sculptures. On est bien d'ailleurs chez vous. Je trouve que c'est très, très apaisant. Et je pose toujours cette question avant de commencer. J'en pose deux d'ailleurs. Et je vous posais la première. Dans quel état d'esprit vous sentez-vous au début de cet échange, Nicolas ?
Paisible, serein.
Serein. La deuxième question que je pose à tous mes intervenants, c'est quelle est la photo qui n'existe pas, que vous aimeriez peut-être avoir, qui n'a jamais été prise, qui pourra peut-être ne jamais être prise, la photo rêvée, la photo fantasmée que vous aimeriez avoir quelque part sur l'un de ces murs, Nicolas ?
Ben en fait, c'est la photo de mon réveil du mont coma, celle où on s'aperçoit au fond de la vie qu'il y a le triomphe de l'amour. Et cette photo, il faudrait que je l'accroche quelque part autour de moi, parce que ça m'anime, c'est dans ma chair et je ne veux jamais oublier.
Alors on va commencer tout de suite à évoquer, vous venez de sortir un ouvrage, hein, un ouvrage qui est édité aux éditions, alors je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai oublié le nom de l'édition, aux éditions Iseran Édition, hein, qui est votre structure éditrice, le livre pour lequel on vous avait reçu il y a quelques temps déjà, l'énergie est inépuisable, était aux mêmes éditions. Vous avez sorti un ouvrage, 53 minutes, survivre et renaître, qui est l'histoire de ce parcours un petit peu hors norme que vous avez posé par écrit. On va reprendre les chapitres un peu dans le désordre et on va commencer plutôt par la fin. On va parler économie, travail, entrepreneuriat. On va essayer de voir quelles sont les leçons finalement que cet accident a provoqué chez vous sur l'aspect du travail et votre regard peut-être sur le monde économique aujourd'hui.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, on évoque avec vous, on a évoqué la semaine dernière donc la vulnérabilité du dirigeant, du chef d'entreprise. Vous avez, il est comment le chef d'entreprise d'aujourd'hui, Nicolas Duhep ? Il n'a plus d'entreprise opérationnellement parlant, mais vous êtes toujours à la tête en tout cas de la stratégie d'Alchimie, si j'ai bien compris.
La réalité, c'est que j'ai pris énormément de recul. Finalement, entrepreneur, c'est pas vraiment un métier, c'est un état d'esprit. Donc, j'entreprends d'autres choses. Aujourd'hui, je fais des livres, des conférences pour aller témoigner et pour aller éveiller les consciences et ouvrir les cœurs. Mais l'implication dans le mode business classique a été le mien pendant 20 ans. Aujourd'hui, il est peut-être en pause, j'en sais rien. Peut-être qu'il reviendra à un moment donné, mais en tous les cas, il nourrit plus mon quotidien.
Sans parler de regrets, est-ce que vous avez le sentiment que l'entrepreneur que vous étiez aurait pu être différent et si jamais vous repartiez dans un entrepreneuriat classique, comme on peut l'imaginer dans notre imaginaire collectif, est-ce que vous avez l'impression qu'il a changé, il changerait aujourd'hui ?
Non, je referais la même chose. Ouais. J'ai pas de regrets. Je pense que j'avais la vie dont je rêvais. J'ai d'ailleurs, post-accident, tout fait pendant 14 mois pour retrouver cette vie-là parce qu'elle me passionnait, parce qu'elle m'apportait beaucoup de satisfaction relationnelle, intellectuelle, financière. Et donc, je me suis battu pour et j'ai adoré. Donc, je referais la même chose. Alors, bon, c'est sûr que la conclusion est plutôt un peu brutale, mais finalement, s'il m'est donné le moyen ou la chance...
Si on vous donnait la santé, la chance, vous repartiriez sur la même chose ?
Je pense qu'il faut être assez humble. La réalité, c'est que c'est probablement un peu formaté. Mmh. Peut-être que je serais passé à côté de plein de choses aussi. C'est une joie que j'ai aujourd'hui de pouvoir avoir découvert quelque chose d'encore plus extraordinaire qui était ma vie d'avant. Mais vous êtes sur des rails et puis ça se passe bien. Et tant que ça se passe bien, il n'y a pas de raison de changer, quoi.
Qu'est-ce que ça vous a révélé, cet accident, sur vous ? Alors, pas sur vous en tant qu'homme, mais même si les deux sont liés. Moi, j'ai toujours du mal à parler de vie pro, vie perso, parce que je pense que si on veut être une personne unifiée, il faut forcément lier les deux. Mais qu'est-ce que ça vous a appris, cet accident ? Vous en parlez avec beaucoup d'émotions.
Ouais, en fait, moi, j'étais entrepreneur pour être libre, parce que je voulais pas d'un patron qui m'envoie à droite, à gauche, en prenant femme et enfant. Et en fait, cette liberté, je me suis aperçu qu'elle avait un petit côté Truman Show. C'est-à-dire que la définition du temps, la façon dont le rapport au temps, c'est un conditionnement. Le toujours plus haut, toujours plus fort, c'est un conditionnement. Sky is the limit, c'est un conditionnement. Et donc, en fait, cette liberté, elle se fait dans un cadre qui est extrêmement précis et qui est le cadre de la société dans laquelle on vit tous aujourd'hui, un peu une énorme pièce de théâtre. Et ce que ça m'a révélé, c'est en fait la liberté profonde, celle d'un cadre qui a explosé et en fait découvrir la puissance du cœur derrière.
Mmh. La puissance du cœur, on y reviendra. Vous avez deux choses qui m'ont intéressé. Vous dites, finalement, on est aujourd'hui, et ça rejoint cette notion d'économie du cœur, c'est une de vos intuitions peut-être, et il faudra continuer à la creuser. Vous dites, on est finalement dans une société de la performance totale, et finalement, on ne comprend peut-être pas vraiment ce qu'est la performance.
Mais en fait, on est dans une société qui est extrêmement cartésienne et cérébrale, dont l'échelle des valeurs est organisée selon votre succès de performance. Alors moi, je ne le remets pas du tout en cause, hein, ne trompons pas là-dessus. À 20 ou 30 ans, si vous voulez créer une famille, avoir un toit, bah, faut y aller, faut bosser, faut être performant. Mais en revanche, comme les sportifs de haut niveau, passé un certain âge, ben, vous prenez votre retraite à 35, 30, et aujourd'hui, Zidane a énormément de valeur, mais sur le banc de touche. Mmh. Alors, c'est dans cette découverte-là qu'on s'aperçoit qu'en fait, le cœur a énormément de puissance et que pas simplement le cerveau. J'utilise cette image symbolique de mon coma où il n'y a que le cerveau et le cœur qui sont actifs, tous les autres organes sont endormis, et il y en a un qui est plus puissant que l'autre, parce qu'il y en a un qui peut vivre sans l'autre et que c'est pas la réciproque. Et donc aujourd'hui, où on a recruté énormément de cerveaux pour pouvoir générer de la croissance, eh bien, je pense qu'avec l'intelligence artificielle qui est en train de naître, on va mettre une partie de ces cerveaux au chômage, ceux qui font du tableau Excel et du PowerPoint à longueur de journée.
Ou du journalisme, la preuve en est. Hein.
Mais en tous les cas, il va falloir du coup, pour prompter des IA, pour pouvoir, comme le Petit Prince, voir des choses que le cerveau n'est pas capable de voir, donc les voir avec le cœur, il va falloir commencer à recruter des cœurs. Et je pense que c'est un défi incroyable, mais surtout une opportunité géniale pour nous, parce que peut-être que c'est l'opportunité de créer une société un peu plus humaine, une société basée sur le cœur. Et si on reste enfermé dans un match cerveau-intelligence artificielle, ben on a raison de s'inquiéter, mais si on veut voir autre chose, ça va être extraordinaire.
Et c'est ce que vous dites à propos de la jeune génération, quand cette jeune génération aujourd'hui dit, on veut du sens, on n'a jamais vu autant de jeunes têtes bien faites aller à la direction générale d'ONG, d'organismes caritatifs, d'entreprises porteuses de sens, peut-être même chez votre ami Stéphane Moreau à Réside Sociale, et on en parlera à la fin. Et vous dites dans cet ouvrage, finalement, c'est pas le sens qu'ils recherchent, c'est le cœur.
Oui, parce que le sens, il y a une connotation un peu morale là-dedans. Et puis, d'ailleurs, c'est meaning en anglais, il n'y a pas la définition. Donc, en fait, c'est quoi la signification? C'est le cœur. Mmh. Et celle qu'on retient, c'est les amitiés. On fait du cœur. Quand on veut créer des équipes, que vous fassiez, par exemple, dans la Légion étrangère, vous devez monter au front et donner votre vie pour votre copain qui est à côté. Ce n'est pas le cerveau, ça, parce que sinon, votre cerveau, il vous dit « allez-vous-en, c'est complètement fou ce que vous êtes en train de faire, c'est le cœur. » Et donc, je pense que cette force-là, elle avait un peu disparu, on a été un peu atrophié du cœur, probablement aussi parce qu'on a connu des générations où même les organes étaient un peu sexués, c'est-à-dire que le cerveau, c'est masculin, c'est les maths, le cœur, c'est le littéraire, c'est les filles. Et en fait, en rééquilibrant les valeurs, on s'aperçoit que les filles ont un cerveau et que les garçons ont un cœur. Mmh. Et donc, c'est une opportunité incroyable.
Et vous avez tout un passage justement sur le côté masculiniste du management, et qu'en fait, on finit par oublier justement cette part féminine, c'est-à-dire de l'intuition, de l'empathie, cette notion du cœur en fait, et que finalement tout bouquin de management comprend, met cette intuition du cœur de côté.
Oui, mais d'ailleurs c'est pas une notion féminine, c'est que les hommes ont des émotions, les filles sont capables de faire des raisonnements, et qu'une fois qu'on veut bien voir les choses de cette façon-là, on se dit qu'est-ce que le cœur peut produire et où est sa puissance. Et je pense que le cœur est extrêmement performant. Mais en revanche, apprendre à écouter son cœur, à qualifier ses émotions, à leur faire confiance, on n'a jamais appris ça à l'école. On ne sait pas le faire. Et donc, on va créer des écoles du cœur.
Alors, je dois vous avouer que j'ai du mal à caler une interview, mais ça y est, elle est calée pour le mois de juillet. Elle sera diffusée au mois de septembre. C'est un petit teasing pour les auditeurs, avec un entrepreneur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hubert Joly, qui a été à la direction de Best Buy et qui a sorti un très bel ouvrage qui s'appelle « L'entreprise a du cœur ». J'ai hâte de lui faire confronter, je lui enverrai cet enregistrement, de confronter votre regard sur le monde de l'entreprise et sa vision aussi, lui, d'entrepreneur. Nicolas Duhep, le monde de l'entreprise évolue beaucoup. Quel est votre regard sur, d'une manière un peu plus générale, sur ce monde économique qui est en train de se recomposer? On le voit bien, il y a des défis à relever, des défis sociaux, des défis environnementaux. Comment est-ce que vous percevez ce monde économique aujourd'hui?
En fait, on est à la fin d'un cycle. Le monde ultra productiviste, ultra performant. La planète est en train de nous rappeler qu'on touche les limites. Les jeunes sont en train de nous dire « moi, j'ai pas envie de faire comme mes parents pour finir en burn-out à 50 ans ». Donc en fait, tout ce modèle-là, il est re-questionné. Et c'est soit un sujet de souffrance parce qu'on s'en inquiète et qu'il va falloir inventer quelque chose de nouveau, soit quand on est entrepreneur, c'est une énorme opportunité parce que pour le coup, les choses en place sont en train de craquer et on peut créer vraiment des nouveaux modèles, des nouveaux types de management et tout le monde est prêt pour ça, quoi.
Si vous deviez reprendre une activité opérationnelle dans une nouvelle entreprise, vers quoi vous dirigeriez, Nicolas Duhep?
Je sais pas.
Fort de toute cette expérience, vous auriez une envie d'aller sur un terrain de jeu différent de celui, par exemple, que du numérique?
Alors, je ne vais pas répondre à cette question parce que n'ayant pas le feu vert pour pouvoir reprendre une activité, je m'interdis d'y réfléchir pour éviter de me générer des frustrations.
Très
et
bien.
Donc, rester dans le présent et accueillir les choses telles qu'elles sont. Donc,
très intéressant. Et on verra justement au cours de cette interview cette notion de rester dans le présent. Il y a plusieurs choses qui traversent votre ouvrage, Nicolas Duhep. Rester dans le présent, la notion de miracle aussi est extrêmement présente. La notion des émotions aussi. Vous dites que c'était un apprentissage, une découverte et aussi un apprentissage de savoir gérer ses émotions. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale dans notre échange. Alors, je vous ai demandé quatre choix, j'en ai choisi un. J'ai choisi le portrait, puisque finalement on fait votre portrait de Calogero. Il y en avait d'autres, peut-être qu'on aura le temps d'en écouter d'autres. Mais pourquoi cette chanson du portrait? Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson?
C'est un concert où j'étais avec ma femme et on avait été très émus et c'est un très bon souvenir.
Eh bien, le portrait Calogero, c'est sur RCF, c'est dans Visage d'entrepreneur avec Nicolas Duhep. On se retrouve tout de suite après.
Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. Sa maîtresse, pourquoi parent ne prend pas d'aise? Des câlins, il en voudrait tellement, ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère.
C'était Calogero sur RCF. On est avec Nicolas Duhep pour notre visage d'entrepreneur.
L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
Nicolas Duhep, on va commencer et on va reprendre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire sur cette renaissance. Est-ce qu'on peut parler de renaissance finalement après le 9 mai 2021?
C'est ce que j'ai choisi pour le titre du livre, 53 minutes, survivre et renaître, Parce que oui, il a fallu que je renaisse, il a fallu que je réapprenne à parler, que je réapprenne à marcher, que je réapprenne tout ce que j'avais déjà appris, mais désappris, ou, enfin oublié ou à désapprendre pour pouvoir réapprendre. Et en fait, on fait un cycle accéléré, pareil pour qualifier ses émotions, etc., un peu comme les ados. Donc il y a un cycle de renaissance.
Alors qu'est-ce qui s'est passé ce 9 mai 2021 ? Vous enfourchez votre vélo, vous allez vous balader en vallée de Chevreuse et là ?
Et là, à 11h, brutalement, mon cœur s'arrête dans une côte à 132. Et, il battait à 132 et le miracle, c'est que derrière moi, trois vélos, un médecin et deux gendarmes voient que j'ai un problème. Ils ont commencé à masser. En France, on a 60 000 morts subites par an, 3% de rescapés. Vous avez 3% de chance au bout de 9 minutes de massage de sauver juste le cœur. Et le défi, c'est pas le cœur, c'est le cerveau, parce que le massage envoie simplement 25% du besoin du cerveau en oxygène. Voilà, et au bout de 25 minutes, les pompiers vont arriver. Le SAMU, au bout de 45 minutes, va débarquer en voyant que je suis un cadavre, avec l'intuition qu'il se passe encore quelque chose dans le cerveau, donc va jouer le tout pour le tout. Et 11h53, retour à une sinusoïdale. Donc derrière, opéré du cœur, plongé dans le coma, une infection pulmonaire dans le coma, et je vais, au bout d'une semaine, sortir tout seul du coma.
Tout seul, c'est-à-dire quoi tout seul ? C'est-à-dire
m'extuber.
Vous réveillez ?
Je m'extube.
Et parce qu'ils ont tenté deux fois auparavant, hein, et ça ne s'est pas forcément bien passé. On vous a replongé dans le coma. Et puis là, tout d'un coup, un réveil un peu comme dans Grey's Anatomy ?
Oui, en fait, c'est sans doute, j'en sais rien, peut-être une fausse médicale ou quoi que ce soit. Enfin, ce qui s'avère une bonne chance parce que j'en suis sorti de ce coma. Et en fait, d'ailleurs, le premier flash que j'ai, c'est une infirmière qui débarque et me dit « Monsieur, il ne faut pas faire ça », qui m'attrape, qui me met dans le lit, qui me sangle. Et le deuxième flash, de leur dire « je veux parler à ma femme », il est 4h30 du matin, et en réalité, je vais leur dire 25 fois « mais je ne comprends pas que je ne parle plus » et que j'ai perdu la
parole. Vous entendez parler, mais vous n'êtes plus en capacité, le cerveau n'est plus en capacité de dire les mots les uns derrière les autres.
Et donc, je vais sortir de réa, aller en soins intensifs, et au bout de 3 jours de soins intensifs, écrire un WhatsApp à ma femme en me disant « viens me chercher, je ne veux pas rester ici, j'ai peur ». Il est 6h30 du matin et elle de me dire pour une fois dans ta vie sois patient. Et en fait à 9h30 qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'en sais rien, mais je leur envoie un WhatsApp en lui disant c'est bon, viens me chercher, j'ai tous les papiers, sinon je rentre en taxi. Et elle de débarquer un peu en urgence en disant c'est quoi ce bazar ? Et d'un point de vue cardio, le cœur manifestement réagit extrêmement bien, donc ils sont OK pour que je sorte à condition de faire une radiocaution du cœur. Et pour le neurologique, il lui laisse la responsabilité, elle a la foi, et elle va accepter de me ramener ici même, sans que je reconnaisse l'appartement dès midi et demi. Mais la chance, c'est que je vais pouvoir faire la rééducation dès le lendemain, et apprendre à parler, à marcher, etc. Et avec le même état d'esprit qui m'a emmené dans le mur, bah, je vais faire cette rééducation au rythme, un rythme effréné. Et 5 semaines plus tard, un test d'effort, j'ai un bon de sortie, je peux reprendre ma vie normale. Et 5 semaines et une journée plus tard, je suis au bureau.
Je suis au bureau. Et après, on verra que ce bureau, oui, mais non, en fait.
Voilà, en fait... la blague va durer quelques semaines, le temps d'être rattrapé par une énorme fatigue qui va me lancer dans une dépression que je connaissais pas. Et je vais être accompagné par une femme qui va me faire accoucher de « il faut que je quitte tout ».
Quand vous dites accompagné, c'est une psychologue, une psychiatre ?
Oui, c'est une sorte de coach psy, oui. Et donc de retourner vers le conseil d'administration en leur disant « j'ai essayé, mais c'est pas bon pour la boîte, c'est pas bon pour moi ».
On reviendra là-dessus. Ces personnes qui vous ont accompagné, c'est-à-dire le gendarme, le médecin, c'est un médecin, c'est ça ?
Un médecin, deux gendarmes.
Un médecin, deux gendarmes. Vous les revoyez encore ? C'est devenu des intimes aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est une part de la vie ? Ils ont été là, ils seront dans votre cœur présentement, mais plus...
Non, je les vois régulièrement, je les tiens au courant, je leur envoie des SMS, ils étaient là à la soirée de dédicace. Vous savez, c'est une relation tout à fait particulière. C'est pas des amis proches, mais en même temps, c'est des gens qui vous ont sauvé la vie. Donc, comme vous dites au lycée à un pote, tu m'as sauvé la vie. Là, eux, pour de vrai, ils m'ont vraiment sauvé la vie. Et donc, je pense qu'ils sont aussi émus que moi à chaque fois qu'on se revoit. Je les invite souvent à déjeuner et on passe des bons moments.
5 semaines, donc vous ressortez, vous commencez votre rééducation et 5 semaines après, vous reprenez le taf et en fait, vous avez le sentiment que vous allez pouvoir reprendre, enfin, au plus profond de vous-même, ou quelque part, il y a déjà quelques éléments qui vous font dire qu'il ne faudrait pas, mais vous y allez quand même.
Non, je suis retombé sur pas mal de WhatsApp. J'écrivais à ce moment-là en disant à des copains, j'ai eu un petit avatar, l'affaire à régler, il faut juste un petit peu de patience, mais on va vite tourner la page. Mmh. Donc je ne doutais pas qu'on allait pouvoir passer à autre chose très rapidement.
Mmh. Et donc vous retournez au travail et 6 semaines après, vous allez revoir le conseil d'administration en disant c'est plus possible.
Je craque, je ne suis plus capable, je n'assumais plus cette image d'entrepreneur qui doit avoir de l'énergie pour tout le monde, trouver des solutions pour tout le monde et être au top pour tout le monde. Alors que j'étais épuisé à pleurer la tête sous l'oreiller tous les matins. Quoi.
Vous avez écrit donc l'énergie est inépuisable. On pourrait regarder ça avec un petit sourire en coin en se disant bon, elle est un petit peu épuisable quand même. Ceci étant.
Non, pas du tout, parce que je suis toujours là.
C'est ça, vous êtes toujours là. Elle a été renvoyée. Cet ouvrage, vous l'avez relu a posteriori. Et est-ce que vous changeriez des choses dans cet
non,
ouvrage
je,
Non,
je change
vous l'assumez
pas,
totalement.
J'assume complètement, je ne change pas une ligne. Ouais. Je pense que d'ailleurs, il plaît beaucoup aux start-upers et, de 20 ou 30 ans. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je nie pas la performance ou je dis pas que le monde d'avant il était terrible et que maintenant il faut que je bascule dans mon nouveau monde. Je vous ajoute juste maintenant à ce livre une forme de sagesse qui est acquise de fait à travers cet accident. Qu'il y a un temps pour tout. À 20 ans, aux 30 ans, on peut être au taquet. À 40, ça couine un peu. À 50 ans, ça passe pas. Cette énergie, elle doit se transformer et, pour faire valoir de nouvelles forces. C'est peut-être quelque chose que, par manque d'expérience à l'époque, que j'avais pas complètement vu. Mais je pense que ça reste complètement valable.
Nos invités, la semaine dernière, étaient unanimes pour dire que la santé, c'est le premier bien immatériel, le premier capital immatériel de l'entreprise. La santé du dirigeant, c'est important. Aujourd'hui, est-ce que vous conseilleriez justement à ces start-upers ou peut-être au Nicolas Dueb d'avant d'être plus attentif sur, non pas sur sa santé, mais sur les signaux faibles que le corps peut donner, voire même peut-être d'être accompagné de manière régulière pour faire peut-être des check-up réguliers, avoir des coachs qui vous disent hop, attention, il va peut-être falloir se mettre au vert.
Vous savez, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ils adorent se comparer à des sportifs de haut niveau. Ils invitent à chaque fois dans des séminaires des sportifs de haut niveau. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment comme similitude avec un sportif de haut niveau? Parce qu'un sportif de haut niveau, ça a un entraîneur, ça a un coach, ça a un psy, ça a un nutritionniste, un kiné. Il y a toute une équipe autour. Et nous, qu'est-ce qu'on a vraiment? Là, on devrait s'interroger là-dessus. Et c'est vrai que la première mission d'un chef d'entreprise, comme le disaient les Chinois, la première mission de l'empereur, c'est d'aller bien. Et la première mission d'un entrepreneur, c'est d'aller bien. Parce qu'une boîte avec un patron qui va bien, elle se donne une chance de réussir. En revanche, une boîte avec un patron qui est en mauvaise posture, en mauvaise santé, vous êtes sûr qu'elle va pas bien.
On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais... Le fait d'avoir eu un accident, au-delà du fait de ne plus pouvoir la diriger opérationnellement, elle était structurée pour pouvoir, j'ai envie de dire, continuer son existence sans vous?
Alors non, pas du tout.
Donc ça, même ça, vous l'aviez pas anticipé en vous disant, bah non, c'est...
Non, et puis d'ailleurs, le monde est fascinant parce que c'est une boîte que j'ai introduise en bourse.
Oui, 5 mois avant dans votre...
Et donc vous écrivez un document pour la commission des opérations de bourse et il y a 50 pages de tous les risques possibles et inimaginaux que vous pouvez avoir sur votre entreprise, même celui d'un Boeing A380, enfin d'un Airbus A380 s'écrasant sur les data centers de la boîte. Il y en a pas un qui m'a posé la question sur mon état de santé.
À part l'assureur, hein, si j'ai bien lu. Il y a que l'assureur qui s'est un peu soucier de votre bilan de santé.
C'était juste avant, en fait, quand vous faites des LBO, vous offrez des grosses dettes, et là, les assureurs, nothing personal, but on veut quand même juste appliquer les stats qu'on a.
C'est ça. Et
ils ont raison.
Et ils ont raison, absolument. En effet, c'est finalement... et peut-être que l'IA va leur donner encore plus d'informations qu'on en a. Qu'est-ce que vous découvrez de tout ça, Nicolas Dueb? C'est quoi les grands enseignements de cet accident sur vous, sur votre environnement? Dans votre livre, vous parlez très très peu, j'ai noté, vous parlez très 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 peu de votre famille. Elle est présente au début, on voit un petit peu comment, mais finalement après elle disparaît. Quels sont les enseignements que vous tirez?
Oui, je pense qu'elle est en filigrane et elle finit avec une puissance d'amour pour ma femme qui, à mon avis, est suffisamment significative pour... Non, la famille, elle est en filigrane partout parce que je pense que c'est l'amour de votre femme qui fait que, et de vos enfants qui fait que...
Et vous avez eu peur à un moment donné que cet événement change la relation?
Oui, et en fait, ma femme, elle avait eu un conseil très précieux d'une amie qui avait vécu un peu la même chose et qui lui a dit « tu dois rester sa femme ». Tu ne dois pas devenir une infirmière, une coach, etc. Tu dois rester dans ton rôle de femme. Et je pense qu'elle l'a fait. Et c'est vrai qu'on passe des moments où vous mettez le couple sous pression et où moi-même, je devenais méchant parce que votre image de vous-même est dégradée. Mais elle a toujours eu cet amour parce que mon âme est restée la même. Elle s'est accrochée et je pense que c'est la bouée de sauvetage qui a fait que ça a fonctionné. Vous savez, dans le film « Sauver ou périr », la scène où en tant que jeune pompier, il est brûlé, 24 opérations chirurgicales, il est méchant avec sa femme, elle craque à ce moment-là, au bout de 2 ans.
Et c'est ça qui vous a fait peur un petit peu, non?
Ben, j'ai vécu cette scène. Moi, ouais. J'en ai pleuré quand je l'ai vue. Ouais. Et là, je me dis que j'ai eu la chance, mais c'est l'amour, celui que vous avez au bout de votre vie, il ne se décrète pas 3 minutes avant, c'est tout ce que vous bâtissez avant, avec votre famille, votre épouse, avec tous vos amis, et c'est à ce moment-là que vous, quelquefois, enfin je dirais de façon un peu économique, vous touchez les dividendes de l'amour que vous avez donné. Quoi.
Alors justement, qu'est-ce que ça a changé au plus profond de vous? Vous dites, depuis qu'on a commencé cet échange, vous dites finalement, si j'avais la capacité, je referais peut-être, j'aurais peut-être la même dynamique, cette même rage, l'envie de réussir, etc. Mais il y a quand même des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé profondément en vous? Qu'est-ce qui est différent chez le Nicolas Duep d'après le 9 mai 2020?
Je le développe dans le livre d'ailleurs. Ce qui est fondamental, c'est le rapport au temps. Parce qu'avant, vous êtes tout le temps dans le futur, vous apprenez à vendre dans le présent. Ce qui est fondamental, c'est qu'avant, vous êtes entrepreneur pour tout contrôler. Et puis en fait, vous apercevez que vous ne contrôlez pas grand-chose dans la vie. Et donc, le fait d'accueillir et d'accepter les événements tels qu'ils arrivent, ça vous change complètement votre état d'esprit. Ma vie aujourd'hui, c'est presque un escape game. Je suis pas en train de planifier à 5 ans ou 10 ans. De toute façon, je sais même pas si je serai encore là. Mais en revanche, je cherche les signes. Et tous les jours, y a des jeux. Et puis, je me dis, il fallait que je rencontre cette personne. Elle me déclenche un indice pour passer à l'étape d'après. Voilà, c'est plutôt ce type d'état d'esprit qui est bien aujourd'hui.
J'ai bien aimé votre notion de rapport au temps et de se dire finalement, on est toujours, d'abord parce que ça me rappelle parfois un petit peu moi, dans une commune, pas totalement, mais de se dire finalement, allez, on va tout regrouper pour que les choses se fassent et que finalement le temps d'attente soit le moins long et qu'on profite. Pas forcément qu'on profite, mais se dire on n'est pas là pour perdre du temps, donc on prend un taxi qui nous emmène plus rapidement sur notre rendez-vous parce que ça nous permettra de passer plus de temps, etc. etc. Aujourd'hui, vous avez redécouvert ou découvert peut-être la joie de la balade?
En fait, à un moment donné, avec la psy, moi j'avais un scooter, et pour aller d'un point A à un point B, je partais à la dernière seconde pour optimiser un maximum le seconde, et là où je mettais 17 minutes. Mais en prenant des risques sur la route, en passant dans les voies de bus, en étant en limite sauf en orange. Et à un moment donné, elle me dit, pourquoi vous ne feriez pas de ce passage du point A à un point B un moment de plaisir? Et en fait, c'est tout con comme question, mais en fait, c'est réel. Et donc, du coup, j'ai plus de scoot, je prends le métro. Ça me prend 22 minutes, mais j'écoute des podcasts et j'arrive à reposer.
Et j'arrive à reposer à la...
Voilà, finalement... donc je marche aussi. Et donc ce rapport au temps, il peut être dans le plaisir, il n'est pas forcément utilitariste. Quoi.
J'ai lu aussi que la notion de lâcher prise était quelque chose que vous aviez, que vous aviez travaillé, parce que c'était pas forcément une dynamique évidente avant.
Non, parce qu'en fait, vous voulez tout contrôler. Et en fait, c'est une anecdote dans le match du Kremlin, quand Baranov enseigne à son petit-fils.
Qui est un roman, le match du Kremlin.
Voilà, il lui dit, tu sais pas quand les choses t'arrivent dans la vie, si elles sont bonnes ou elles sont mauvaises. Et lui, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, montant d'une échelle, se casse le bassin, est isolé dans une chambre de bonne, pendant que tous ses potes de régiment font la fête dans les balles de Moscou. Les nazis déclarent la guerre aux soviétiques, ils montent au front. Ils y passent tous, c'est le seul survivant. Mmh. Et lui, de lui enseigner, tu sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est sûr qu'il y a un an et demi, on aurait fait cette interview. Je peux vous dire que ce que j'étais en train de souffrir m'aurait amené à vous dire que tout était mauvais. Mais au fait, aujourd'hui, c'est une énorme chance que j'ai eue. Et si j'adorais ma vie d'avant, et j'ai tout fait pour y revenir, aujourd'hui, ce que je vis est encore plus extraordinaire. Donc tout ça est une chance. Donc vous ne savez pas si c'est bon ou c'est mauvais. Et de lâcher prise là-dessus, c'est un changement de paradigme complet dans la vie, quoi.
C'est-à-dire que vous cogitez moins, c'est ça ce que vous voulez dire, Nicolas ?
Bah sans doute je cogite autant, mais je cogite pas sur les mêmes choses, et je cogite sur les choses du présent, sur lesquelles je peux avoir une action, et celles qui m'apportent du plaisir dans l'instant présent. Mais j'ai quitté ce stéréotype, je suis sûr que ça va vous parler, mais du gars qui préparait ses vacances, pendant qu'il était en vacances, répondait à ses mails, et quand il revenait, il regardait ses photos.
Donc, finalement, on a passé de belles vacances.
Oui, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment là, et dans l'instant, c'est l'instant qui permet d'accéder à la joie, qui permet d'accéder à l'amour. Et ça c'est bien expliqué dans Matière et mémoire de Bergson. Et pour moi, c'est sans doute une évidence qu'il fallait découvrir, mais ça a été une révélation dans mon approche. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera dans 5 ans ?
C'est pas grave.
On verra.
On verra. On verra. L'important, c'est de bien vivre le temps présent. Et ça nous rappelle le cercle des poètes disparus. J'aime beaucoup cette vision où on prend de la hauteur. Vivons le temps présent, carpe diem, et prenons de la hauteur et regardons. Est-ce que vous l'avez déjà fait, Nicolas, vous l'avez fait très certainement de par votre expérience, mais de se dire, on monte sur une chaise et finalement, notre pièce, elle prend une forme totalement différente parce qu'on la voit sous un angle qu'on ne voit jamais.
Alors moi, j'ai en fait... avoir fait l'expérience du lit de mort et d'avoir touché la mort, la vie c'est un axe du temps, hein, et d'avoir fait l'expérience de ce qu'il y a là au bout, c'est vrai que vous voyez le triomphe de l'amour et donc vous passez en mode rétro-planning. Et aujourd'hui, ma journée, j'ai envie de rencontrer des gens sympas.
Comme Stéphane.
Comme Stéphane, ça fait plaisir qu'il soit là aujourd'hui. J'ai envie de rencontrer, d'avoir des interactions positives. J'ai plus envie de m'embarrasser avec des regrets, des remords, des agressions. Parce que je vois qu'au bout, c'est plus là. Et donc, en fait, j'ai envie de constituer ce qu'a créé cette puissance émotionnelle qui est au bout de la vie, quoi.
Les émotions aussi, vous êtes obligé de... Enfin, je ne vais pas dire, quand je lis votre ouvrage, ce n'était même pas obligé de les réapprendre. Vous avez expérimenté ce qu'était l'émotion. C'est-à-dire que vous n'étiez pas intrinsèquement éduqué à exprimer vos émotions ?
Je ne pense pas qu'on soit nombreux à avoir été éduqués à écouter ces émotions. En tous les cas, les miennes, elles étaient sous une plaque de béton pour avancer, pour ne pas être perturbées par les agressions des uns et des autres. En tant qu'entrepreneur, elles étaient bloquées. Donc aujourd'hui, la plaque de béton, elle est passée
en mille
morceaux.
C'est ça.
Donc les émotions, elles sortent tous les jours. Je dois pleurer une fois par jour. Mais c'est incroyable. Mais c'est vrai que les premières séances avec les psychologues, quand on dit « Est-ce que vous avez des émotions ?»« Je sais pas. » Et celle-là, elle est bonne ou pas ?« Je sais pas. » Donc c'est un peu travailler avec la roue de Plushnik, à mettre des mots sur les différents types d'émotions. Aujourd'hui, je pense que je suis en phase d'éducation. J'ai peut-être un niveau d'école primaire. Mais c'est ça que j'appelle l'école du cœur. Parce que si on était capable d'être capable de qualifier ses émotions, d'être précis, d'avoir des mots, on n'aurait pas la même forme de communication et on résoudrait aussi pas mal de problèmes. Vous savez, quand vous arrivez à la fin au JO, il y en a un qui est médaillé d'or, on tend le micro, alors qu'est-ce que vous ressentez ? Oh, j'y crois pas, c'est énorme. Oui, mais c'est juste pas ça qu'on a envie d'entendre. Et on doit s'éduquer. Dans la vie d'entreprise, c'est la même chose. Être capable de poser question à son boss ou un salarié. Qu'est-ce que tu ressens ? Essayez, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu.
Nicolas Duhep, vous parlez plusieurs fois de miracle. Est-ce que je pense qu'on est quelque part dans un... Alors si on reprend la casquette RCF, on est en plus le samedi de Pâques, donc demain et dans la nuit, on célébrera la résurrection du Seigneur. Parler de miracle pour vous, du point de vue de la foi, il y a vraiment eu un miracle ?
Déjà, d'un point de vue scientifique, on n'explique pas ce pourquoi 53 minutes et pourquoi je suis encore en vie avec aussi peu de séquelles sur le cerveau. Voilà, donc déjà, quand le scientifique n'arrive pas, au bout d'un moment, on se tourne vers autre chose. Moi, j'ai jamais douté qu'en fait, si Dieu était venu me chercher un dimanche matin sur le bord de la route, c'est qu'il avait une forme de mission et donc à moi de jouer et de trouver. Mais comme vous avez dans Jérémie,
18, le livre de Jérémie.
Ouais, le livre de Jérémie. À un moment donné, quand vous lisez Seigneur, tu m'as donné à voir, maintenant je sais. C'est un peu ça qui résonne en moi désormais, quoi.
Est-ce que ça a changé votre rapport à la foi, cette expérience, Nicolas ?
Oui, complètement. Moi, je pense que j'avais une foi cérébrale. Elle est devenue peut-être plus foi du cœur aujourd'hui. Typiquement le cœur à cœur, je trouvais que c'était un truc un peu de minette, quoi. Ouais. Et en fait, c'est tellement puissant. Et puis ça change, parce que derrière la foi, il y a une notion un peu de croyance. Mais comme je le disais, aujourd'hui, c'est tellement évident que le cadeau qui m'a été fait étant une preuve d'amour que je n'ai pas besoin de croire, je sais, quoi. Mmh.
Qu'est-ce que vous voulez dire j'avais une foi cérébrale, c'est-à-dire, en fait, vous étiez, vous preniez la parole de Dieu et vous l'analysiez, vous étiez plutôt un exégète plutôt qu'un masticateur de la parole de Dieu.
Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de lire, même mon rapport au plus fragile et au plus humble. Bah, je le comprenais, et puis je pensais que moi, mon rôle, c'était de gagner de l'argent et d'envoyer des chèques. Quand vous faites l'expérience de la mort, et puis même des poignets pétés, et de tout ce qui m'arrive derrière,
parce qu'on n'a pas parlé de toutes les fractures, etc.,
c'est tellement humiliant. Vous voyez que le handicap qui était le mien, vous ne pouvez rien faire quand vous n'avez pas de bras. Bah, là, d'un seul coup, vous vivez dans votre chair la fragilité, Et donc, évidemment, que d'un seul coup, vous ouvrez un nouveau monde. Mmh.
Est-ce que ça change quelque chose aussi sur votre rapport à la vie de prière ? Vous dites que vous êtes rentré davantage dans un cœur à cœur, mais aussi dans votre engagement ecclésial. Est-ce que ce rapport au Christ, ce rapport au Seigneur est vraiment différent ? Est-ce que vous avez le sentiment, un peu comme Claudel, qu'il y a eu une forme de conversion ?
Ben, en fait, moi, ce qui a changé, c'est que maintenant j'ai vraiment l'impression de vivre avec lui. Ma vie, c'est un cadeau, elle ne m'appartient pas. Mmh. S'il est venu me chercher, elle est présente. Et donc, ma mission, c'est d'être à son service. Et donc, je cherche les signes tous les jours, comme je vous disais, un peu comme l'escape game, pour savoir, aujourd'hui, il faut qu'on aille où, et il faut qu'on rencontre qui, et qu'est-ce qui est bon. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand vous êtes dans le juste, vous êtes aligné, tout se fait facilement. Mmh. Et par rapport à avant, où vous aviez, avec votre volonté toute puissante, envie de pousser des murs, etc., et ça prenait tellement d'énergie pour rien.
Comment résonne, ça fait presque trois ans que cet accident a eu lieu. Là, on est dans le grand week-end de Pascal. Comment résonne ce tridium pascal chez vous ? Parce que finalement, vous avez vécu un peu chacune de ces étapes. Étape sans commune mesure, bien évidemment, mais ça doit résonner assez fort chez vous.
Je me fais pas dans une comparaison de ce type-là. Non, je suis plus dans les exercices de Saint Ignace, les méditations du lit de mort, de comprendre ce qu'est la mort.
La méditation du lit de mort, pour les auditeurs, c'est cette période au milieu des exercices.
C'est à la fin de la première semaine, la semaine de désolation.
On s'allonge et on doit expérimenter intellectuellement ces sensations.
La mort, on l'a cachée, on l'enlève, elle n'est plus dans notre vie, parce qu'elle est l'ennemi de la société de consommation. Mais pourtant, s'il y a bien un truc, Patrick, vous et moi... À la fin, on va mourir. Et donc, appréhender la mort et mettre la mort au centre de sa vie, parce qu'en fait, on se prépare toute sa vie à mourir, et de comprendre qu'à la fin, c'est l'amour, vous bâtissez de l'amour toute votre vie pour pouvoir vivre de façon très intense cet ultime sentiment pour cet ultime moment de vie. Ouais. Et ça change complètement les priorités, la façon d'aborder les relations. Ça vous change de paradigme. Et c'est vraiment ce type de conversion que j'ai vécu.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le rapport à la mort, il est complètement différent. Finalement, vous l'avez un peu approché. Vous en avez peut-être moins ou plus peur, je veux dire.
Ce serait peut-être un peu présomptueux de dire que j'ai plus peur de la mort, parce que d'avoir déjà fait l'expérience, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quand même l'amour à la fin. Et j'ai peur de souffrir, mais en tous les cas, c'est une donnée factuelle, expérimentée, qui n'est plus un concept, mais qui est dans la chair, et donc les journées ne sont plus les mêmes. Mmh.
Votre rapport donc à Dieu, votre rapport à la foi est extrêmement modifié, extrêmement changé. Est-ce que votre rapport aux autres aussi a changé ? On a parlé du travail, on a parlé. Est-ce que on posera peut-être la question à Stéphane qui vous connaît depuis longtemps, mais est-ce que votre rapport aux autres a changé ?
Oui, je pense, parce que d'abord vous prenez le temps. Tout était au service d'un objectif, d'une performance, donc vous abordiez sans doute aussi un peu les gens en voyant votre intérêt ou comment ils pouvaient servir cet objectif. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est leurs histoires, et d'ailleurs en témoignant de la mienne, c'est fascinant d'avoir toutes les histoires que j'ai en retour et en écoute. Mmh. Donc parler avec le cœur crée forcément des relations différentes.
Des relations différentes. On va écouter, on va faire une deuxième pause musicale et cette fois-ci plus de circonstances. On va écouter le Stabat Mater de Pergolèse. Pourquoi celui-ci et pas celui de Vivaldi? Moi, j'ai une petite préférence pour Vivaldi, mais Pergolèse est très très bien aussi.
Bah, moi, j'arrive à rentrer. En fait, dans la prière, c'est avec la musique. Les chants pendant les messes me mettent les larmes aux yeux et je rentre très facilement dans la prière avec celui-ci.
Eh bien, je vous propose qu'on écoute le Stabat Mater de Pergolèse et on se retrouve tout de suite après avec votre invité. Vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi Stéphane Moreau. On est sur RCF et on écoute le Stabat Mater de Pergolèse. Voilà, c'était le Stabat Mater de Pergolèse sur RCF dans notre visage d'entrepreneur et on continue avec nos 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Nicolas Duep, Stéphane Moreau, c'est votre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Pourquoi nous avoir présenté Stéphane ?
Bah écoutez, donc Stéphane est un ami. À la question comment changer le monde, bah Stéphane se présentera, mais a un parcours dans le private equity, etc.
Private equity, c'est.
Oui,
c'est,
mais.
Voilà, c'est. Non, mais pour les auditeurs, il faut expliquer, c'est ce métier qui achète et deal des entreprises pour les restructurer et en retirer le plus de bénéfices possible.
Voilà, et à un moment donné, c'est poser la question de comment je peux changer le monde. Et habituellement, quand on dit on va changer le monde, on pense tout de suite au milieu ONG, associatif, etc., qui vous dit il faut aller prendre des subventions, des dons, etc. Et moi, ce que je trouve fascinant dans ce qu'a fait Stéphane avec Resid Social, c'est que on peut faire de l'impact en montant une entreprise. Tout se pose la question dans le taux d'EBITDA et donc le taux de rentabilité, mais factuellement. Stéphane va expliquer combien il a ouvert d'hôtels et comment maintenant il abrite des personnes en difficulté.
Voilà, 7 minutes pour changer le monde avec vous, Stéphane Moreau. Stéphane Moreau, vous étiez nos grandes oreilles pendant ces presque 50 minutes d'échange avec Nicolas. D'abord, comment vous réagissiez à ce qui a été échangé ? Peut-être que c'est la première fois que vous entendez, alors Nicolas en parlait peut-être aussi longuement, je pense que vous avez dû déjà échanger sur ces questions-là. Comment vous réagissez à ce qui a été dit pendant ces quelques 50 minutes ?
Alors, bonjour tout d'abord, deux points peut-être très rapidement. Le premier, c'est que moi j'ai bien connu Nicolas avant et j'ai bien connu Nicolas après. Et ce qui est incroyable dans son histoire, ce n'est pas les 53 minutes. Mmh. 53 minutes, bon, c'est ce qu'on retient. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé après. Et c'est de voir comment Nicolas, avec l'énergie qu'on lui connaît, a su faire un travail sur lui pour se réconcilier avec lui-même. Et ça, ça nous a tous surpris. Mmh. C'est étonnant de voir comment Nicolas est aujourd'hui, je crois totalement, je ne me permettrai pas de le dire, mais vraiment réconcilié avec l'homme qu'il est aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il était autant avant. Et c'est toujours intéressant de voir comment, finalement, comme tu l'as dit d'ailleurs, les faits sont neutres. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Mmh. Et Nicolas a su brillamment accomplir un travail lourd, signifiant sur lui pour devenir pleinement lui-même. Mmh. Donc ça, c'est le premier point qui me marque. Et le second, c'est cette notion de cœur, bien sûr. Effectivement, je crois que le cœur est un moyen d'accès au monde. Mmh. C'est un moyen d'accès à une réalité qui est pas forcément, qui est cachée, qui est au sensible. On est dans un monde où il y a trop de rationnel, il y a trop de réalité, et le cœur est un moyen d'accès donc à ce qui n'est pas visible. Et je crois que tu le dis très bien, et effectivement ces écoles du cœur sont nécessaires. Mais vous êtes un fin connaisseur de la Bible, et je crois me souvenir que Salomon demande à Dieu, quand il prend le trône, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Et cette notion de justesse, de juste, est à mon avis quelque chose d'essentiel pour des gens qui veulent un peu peser sur la société. Et être juste, c'est fondamentalement aimer les autres de tout son cœur et aimer la justice de tout son être. Mmh. C'est ce que Nicolas nous écrit, et c'est ce que, plus modestement, j'essaye de faire dans ma nouvelle vie professionnelle.
Alors, votre nouvelle vie professionnelle, on va en parler. Réside sociale, un lieu de solidarité, d'abri, d'urgence que vous avez créé il y a 10 ans. En fait, les 10 ans cette année, c'était en 2014. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il y a 10 ans, Nicolas l'a un petit peu évoqué, seconde à 50 ans, dernière vie peut-être professionnelle, j'espère pas votre dernière vie tout court, mais votre dernière vie professionnelle, et vous avez décidé de mettre un peu de sens et de cœur à l'intérieur de cette vie professionnelle. Réside sociale, c'est quoi exactement, c'est quoi son triptyque? J'ai vu que ça fonctionnait sur trois jambes, parce qu'on sait bien, si on en enlève une, ça se casse la gueule.
Donc en fait, j'avais 50 ans, effectivement, je souhaiter faire quelque chose qui fasse sens, pour reprendre cette formule un peu galvaudée, qui me permette, la notion de bien commun me parler, et je cherchais un projet où je puisse, avec trois caractéristiques, je dirais, essentielles. La première, c'est d'avoir un vrai impact sur les gens. On voulait vraiment avoir quelque chose qui puisse changer la vie de gens, où on puisse répondre à un besoin important. On avait envie de pouvoir, en plus, avec un besoin important, on a le temps d'apprendre, et puis on peut peut-être construire un gros acteur. Et c'est ce qui a toujours beaucoup intéressé, je crois, à Nicolas. C'est qu'on voulait aussi démontrer qu'on peut construire des acteurs qui soient rentables en ayant ces deux caractéristiques précédentes. Et c'est important d'avoir des acteurs rentables, parce que c'est ce qui permet de mobiliser des ressources financières pour justement construire un gros acteur.
Et alors, comment justement cette rentabilité, vous n'êtes pas rentré, on est dans le social, vous n'êtes pas rentré dans le don, ça veut dire qu'il y a un
business. Nous, c'est une entreprise avec un business économique, donc on a une rentabilité intrinsèque, il y a zéro subvention, et on arrive à lever des fonds pour pouvoir donc rentabiliser ces fonds. Donc ça, c'est ma culture private equity qui a été mise à profit, tout en ayant un gros impact. Et cet impact va en s'améliorant chaque année. Vous savez, si j'avais créé un groupe de pizzeria, j'essaierais de faire les meilleures pizzas du monde. À partir du moment où j'ai une entreprise qui fait de l'hébergement d'urgence, on essaie de faire en sorte que cet hébergement soit meilleur.
Ça veut dire que vous êtes un délégataire de service public sur cette notion de...
On peut le dire simplement, mais c'est à peu près ça. En fait, ce qu'il faut, c'est comprendre le positionnement stratégique. On est parti d'un constat qui est très simple, c'est qu'on a aujourd'hui un besoin d'hébergement qui a muté, qui était au départ un besoin ponctuel et qui est devenu un besoin durable. Il y a en Île-de-France aujourd'hui 50 à 60 000 personnes qui sont hébergées tous les soirs dans des hôtels parisiens. Il y en a en Île-de-France, pardon, il y en a 850. Mmh. Ça correspond à 15% des capacités hôtelières, toutes chambres confondues, Georges V compris. Mmh. C'est une durée d'hébergement dont on pensait qu'elle serait de quelques jours, qui est maintenant de 18 mois. Donc on a un besoin qui a muté. Et face à ça, il y a une offre qui n'est pas du tout adaptée, parce qu'en fait ce sont des hôtels miteux, de centre-ville, de petites capacités, qui ressemblent à rien et qui ne sont pas du tout équipés pour héberger de manière...
Parfois souvent dangereux et insalubres.
Non, je n'irai pas jusque-là, parce que justement, les pouvoirs publics ont fait ce qui devait être fait. D'accord. Pour pouvoir... Non, ils sont pas insalubres, ils ne sont pas dangereux, ils ne sont juste pas adaptés à un hébergement de manière digne et responsable de famille pour ce type de durée. Donc, notre métier est assez simple, c'est simplement les acheter, les transformer pour créer des résidences hôtelières à vocation sociale. Donc pour ça, on s'est donné une triple mission, puisque en fait ce métier n'existant pas, mais il fallait l'inventer. Donc cette triple mission repose sur trois idées vraiment très très claires pour nous. La première, c'est de créer un chez soi. C'est-à-dire que c'est important que les familles hébergées puissent recréer un foyer familial. Donc on essaye de créer une cellule familiale. Ils ont les clés de ce micro appartement. Ils peuvent l'aménager comme ils veulent et c'est leur chez eux. Donc ça, c'était très important pour nous. La seconde idée, c'est d'avoir une notion de vivre ensemble. C'est souvent des résidences de petite capacité, moins de 100 personnes, la moitié sont des enfants. C'est plutôt des centres-villes compacts, des immeubles de centres-villes compacts. Donc il faut que la vie en communauté se passe bien. Donc on a tout un programme de vivre ensemble. Et le troisième, c'est être un facilitateur du parcours d'insertion. Donc sur ces trois points-là, on a des actions spécifiques qui nous permettent d'essayer de faire de manière digne et responsable notre métier.
Alors je parle souvent de la coopération. On a reçu dans ce même visage d'entrepreneur Thibaut Guilluy il y a quelques temps, qui est le nouveau directeur général de France Travail, qui aime beaucoup cette notion du faire alliance, de faire ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes aussi en interconnexion avec les pouvoirs publics, je le suppose par l'insertion, mais aussi avec l'autre tissu associatif? Je pense peut-être à la cravate solitaire, je pense à toi, à moi, quand il faut sortir de l'hôtel et retrouver un chez soi. Est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez ensemble?
Oui, bien sûr, puisque en fait c'est l'enjeu de cette notion de facilitateur d'accélération d'insertion. C'est qu'en fait l'idée pour nous, ça a été de développer ce qu'on a appelé un peu pompeusement un laboratoire d'expérimentation sociale. Donc en fait, on noue des partenariats avec des associations. On teste les partenariats pour s'assurer qu'ils correspondent bien à un besoin des résidents et pas simplement à une idée un peu loufoque de notre part. Et si ces partenariats fonctionnent, si c'est efficace, on assure le déploiement sur tout le parc de nos résidences. Donc on est très fiers aujourd'hui, par exemple, de pouvoir distribuer dans toutes nos résidences, tous les mois, à toutes les femmes leurs besoins de protection d'hygiène féminine. On a 16 partenariats aujourd'hui à date qui marchent très bien, dont un aussi qui est vraiment remarquable. C'est un partenariat avec France Travail, justement. C'est une structure qui est financée par France Travail, qui permet aux populations qui peuvent travailler sur le territoire français d'être accompagnées vers une formation diplômante, un CDI et un logement. On a aujourd'hui une dizaine de personnes qui sont sorties de nos résidences à travers ce programme.
Combien de résidences d'ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas dit?
Je ne l'ai pas encore dit. À date, nous avons 15 résidences.
Uniquement en Ile-de-France?
Uniquement en Ile-de-France. 1000 personnes hébergées tous les soirs. Environ 50 millions d'euros investis pour monter ce projet avec un pool bancaire de 5-7 établissements.
Donc, est-ce que c'est duplicable? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'aller voir ailleurs, dans des grosses métropoles? On peut penser à Marseille, on peut penser éventuellement à Lyon, Bordeaux, ou même des endroits peut-être plus ruraux où cette question du logement social d'urgence peut être parfois problématique.
Alors oui, on peut toujours l'imaginer, mais à court terme, la stratégie entreprise, c'est plutôt de continuer à faire ce qu'on fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on en a 15 sur 850, donc il en reste encore beaucoup à transformer en Ile-de-France. C'est déjà un vrai boulot, c'est quand même compliqué de transformer ces résidences. On fait des travaux sur du bâti ancien, centre-ville, en site occupé. Donc avant qu'on ait la capacité de projection en territoire rural, il va falloir quelques années. Mais on n'a que 10 ans, donc on le fera peut-être dans les 10 prochaines années.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste une dernière question peut-être pour terminer. Vous fêtez vos 10 ans, vous êtes une entreprise à impact social. Le bilan de ces 10 ans, c'est quoi aujourd'hui?
Que du plaisir.
Que du plaisir.
Que du plaisir à tous les niveaux. Tout d'abord, d'avoir découvert un tissu économique que je ne connaissais pas, qui était celui de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une entreprise avec un agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale, agrément préfectoral, donc je ne connaissais pas du tout ce secteur. C'est remarquable, c'est tout à fait passionnant. Plaisir de changer vraiment la vie de gens. Faut voir les conditions d'hébergement avant qu'on arrive et on essaye de faire tout ce qu'il faut pour les changer rapidement. Et puis plaisir d'avoir su constituer une équipe de gens très jeunes, très diplômés, très engagés dans le social, soucieux de mettre en adéquation leur job avec leurs valeurs.
Merci beaucoup. Le mot de la fin, il est pour vous, Nicolas Duhep. Vous allez reprendre le micro. Le mot de la fin est pour vous, Nicolas Duhep. Je vous ai posé la question au début de cette émission. Comment vous abordiez? Comment vous vous sentiez? Comment vous sentez en cette fin d'émission, Nicolas?
Avec plein de joie.
Avec plein de joie. Du paisible, on est passé à la joie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité de ce visage d'entrepreneur en ce week-end pascal. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de l'Écho des Solutions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast préférées, sur rcf.fr tous les vendredis 17h et partout en France sur les antennes d'RCF à 14h le samedi. Bonne semaine sainte à vous, bon week-end pascal, à très bientôt, au revoir.